Narcisse-Henri-Édouard Fauché de Saint-Maurice à La Brunante. La veillée. Partie 1. Né pour faire un monsieur. Sa généalogie se perdait dans la nuit des temps, d'aussi loin qu'il y pouvait plonger son œil noir comme du jais. Il n'entrevoyait que des vers qui se choquaient entre eux et n'entendait que le joyeux glouglou des bouteilles. Il avait réussi néanmoins à saisir au passage le nom de Jérôme Tanguay. Et comme c'était un vrai Canadien du pays, ainsi qu'on se plaît à nommer nos francs lurons, pour lui, la vie consistait en un mauvais calembour, auquel il avait voué une foi robuste. Il s'évertuait partout où le menait la recherche du pain quotidien à passer le temps gaiement. Sieur de long, orfèvre, marin, maçon, charpentier, mesureur de bois, cordonnier, il avait une verve d'avocat, le tact d'un médecin, le cœur d'un curé et l'honnêteté scrupuleuse d'un chef d'opposition qui vise au portefeuille du premier ministre. Une seule chose manquait pour le rendre complet. Jérôme n'avait jamais réussi à se faufiler dans la gravité qui distingue et honore un notaire. Cela l'embêtait au superlatif, car le soir, lorsqu'il revenait chez sa femme, Hélène, et qu'appuyait mélancoliquement sur la petite table où s'étalait un fricot au lard et des patates fleuries dans le sel, il regardait ses doigts longs et effilés. Jérôme ne cessait alors de lui répéter qu'il était victime d'un sort jeté à sa mère par un vieux mendiant, et que sans cela, il serait né pour faire un monsieur. Si c'était le cas, il avait certainement du guignon. Onque malheureux ne fut condamné sur terre à parfaire de plus gros ouvrages, sans les chercher, sans les demander. S'il ne trouvait une rude besogne, il ne la ratait jamais, c'était son lot à lui. Quand il n'y avait plus de farine dans la huche ni de lard dans le saloir, il se mettait au rouet, raccommodait une horloge, sciait des billots, faisait le solage d'une maison, réparait une batterie de cuisine, ressemelait les vieilles bottes de la paroisse et de ses environs, puis l'argent dans sa sacoche de cuir, il retournait flâner au logis, et cela durait tant qu'il y avait du pain sur la planche, car avant tout, Jérôme Tanguay était un homme à principe, et le travail continuel aurait pu contrarier la terrible profession que la Providence lui avait départie, être né pour faire un monsieur. Lorsque j'eus l'honneur de lui serrer la main, il était sieur de gang au moulin de la Grande Rivière Blanche. J'étais tombé sur une journée excellente pour tout le monde, paraît-il. D'abord, il y avait de l'eau plein l'écluse, ce qui faisait aller gaiement le travail, puis Jérôme avait sous le bras une cruche où devait bien se tenir à la gêne un gros gallon de whisky. Il était alors en conversation animée avec le foreman qui avait réussi à réunir une corvée extraordinaire pour mettre en marche les six rondes et lui disait en ce moment « Monsieur, je viens vous annoncer que je suis à la veille d'une... »«
D'une quoi ?»
reprit la grosse voix de l'honnête ingénieur. « Oui, monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que j'en fais trois. » par année.
Comment? Trois billots?
Fit d'un air surpris M. Nicole, à qui l'on avait vanté Jérôme comme un rude travailleur. Je vous présente mes humbles excuses, car il va me falloir vous contredire, excellent monsieur. Ce sont trois petites fêtes que je célèbre avec cette ponctualité que vous aimez tant. L'une à la Noël, l'autre au roi, la troisième vers la première quinzaine d'août. Je ne suis pas exigeant quant à la date, mais vous m'obligerez infiniment, monsieur, en ne les confondant pas avec vos billots.
Je ne défends pas que l'on prenne un coup, deux, trois même, reprit monsieur Nicole. Cela n'empêche pas le travail. Un homme sait ce qu'il peut porter.
Certainement, indulgent monsieur, je me range respectueusement à votre avis avec une légère différence néanmoins. Lorsque j'en prends une, je reste à la maison. Le travail me donne sur les nerfs alors et j'éprouve le besoin de le perdre de vue pendant quelques jours. Car voyez-vous, j'étais né pour être comme vous un véritable monsieur. D'ailleurs, soyez tranquille, elle n'est pas grosse, fit-il en frappant avec conviction sur le ventre de sa cruche. J'espère revenir demain si je rencontre quelques amis. Autrement, je crains d'être privé pour 2 jours de votre aimable compagnie. Vous serez des nôtres, monsieur Henri. Vous n'êtes pas fier, vous? Pour les pauvres gens, on fumera, on dira des contes et l'on chantera. Vous aussi, monsieur Nicole, vous viendrez, n'est-ce pas? Car si l'on me laisse tout seul, ça prendra plus de temps. Allons, à ce soir, messieurs. J'ai l'honneur de me mettre en route. Il partit, en se dandinant, sa cruche sous le bras, comme un officier anglais qui porte son sabre, et voilà, comme ce soir-là, on aurait dit à celui qui serait venu me voir que je veillais en joyeuse compagnie chez mon nouvel ami, monsieur Jérôme Tanguy. À la veillée, partie 2, intérieurs et marines. Jérôme demeurait sur la grève qui descend vers Matane. Comme celle de la plupart des pêcheurs d'en bas, sa maison était construite en bois rond. L'intérieur se résumait en un modeste appartement, large et carré, où se trouvait à l'aise un énorme métier à tisser, entre les trames duquel jouaient pêle-mêle les enfants, les chats et le chien du propriétaire. Dans un coin, il y avait une armoire bleue où se mettait la vaisselle. Tout auprès, 2 larges coffres pour la literie, puis, rangés ça et là autour de l'immense poêle en fonte, des chaises de bois, quelques berceuses et, à chaque angle, un lit où, à certaines heures, s'éparpillait la petite famille. Un fusil à canon long, qui devait dater du temps des Français, sommeillait, paisiblement suspendu à l'une des poutres enfumées du plafond, au milieu d'étoiles de mer et autres curiosités marines, que le filet de maître Jérôme avait forcé à déserter le fond de la mer. Il devait faire chaud dans cette chambre l'hiver. Et Dieu merci, ce n'est pas le bois qui manquait. Le long de la grève, le fleuve rejetait chaque mois assez d'épaves pour chauffer tous les pauvres de Québec. En humant l'air frais qui entrait par la fenêtre, on voyait aux alentours de la maison une berge, des filets suspendus à leurs pieux, des croûtes d'épinettes et des fragments de bâtiments naufragés attendant, pilés en pyramide, le bon plaisir de la cuisine d'Hélène, des cochons grognants et des poules picorant autour des restes d'un pourcil que l'on venait de dégraisser, et plus loin, cloué sur un des pans de la petite grange où ruminait Cayette, une peau de loup marin qui séchait au soleil. Tout ce tohu-bohu était là pour affirmer, une fois de plus, la vanité des innombrables occupations auxquelles se livrait ce joyeux monsieur Jérôme Tanguy. Il nous reçut en bras de chemise et, d'aussi loin qu'il nous vit venir, cria du perron de sa porte: « Pardon, messieurs, de vous recevoir pauvrement. Ma maison n'est pas grande, et si personne ne manque au rendez-vous, nous allons bientôt y être serrés comme la fournée dans un four. » « Mais Jérôme, votre hospitalité n'en sera que plus chaude, lui dis-je en souriant. Nous entrâmes. Après nous arrivèrent Lisotte, le capitaine Letourneau, Jacques Ross, le petit Descoteaux et Urbain Blais. Tous prirent place, à qui mieux mieux, autour de la chambre, et bientôt une conversation générale s'engagea sur la rareté de la morue, qui, cette année-là, ne voulait pas donner sur les fonds. Jacques prétendait qu'elle était pourchassée par des mouvets de marsouins qui ne cessaient de la guetter au large, tandis que Descoteaux soutenait qu'elle avait fui vers le nord et devait se tenir dans la baie de Saint-Nicolas ou près de la batture de Manicouagan. De son côté, Urbain, sous prétexte que le hareng promettait et que le blé serait d'une belle venue, voulut essayer de glisser son grain de sel à propos de la dernière élection. Mais comme on était là pour s'amuser, personne ne prit la peine de relever son allusion, et Jérôme, décrochant son violon, se mit à jouer un reel. Je ne sais pas si c'est la mode ailleurs, mais chez nous, en bas, puisqu'il est convenu d'appeler ainsi les paroisses qui suivent le bic, un bon violonneux joue autant des pieds que des mains. Ceci paraît être un paradoxe, rien n'est plus vrai pourtant, car pendant que la main conduit l'archet, les pieds dansent et battent la mesure. La pose classique consiste à mettre habit bas, avoir la tête légèrement penchée en arrière, et tenir le violon, moitié appuyé sur la bretelle, moitié retenu par les plis bouffants du gilet. Le reel eut pour effet de faire sortir Maître Blais de sa manie de politiquer. Il s'avança, fort galamment, ma foi, vers Madame Tanguy, et tous commencèrent les premiers pas de cette danse fringante que nous tenons des Écossais. De temps à autre, Jérôme s'arrêtait pour s'essuyer le front et prendre un coup. Tout le monde faisait de même, et la danse reprenait de plus belle jusqu'à ce que Blais, se laissant tomber de fatigue sur sa chaise, Jérôme se prit à nasiller. « Lisotte, tu vas nous dire une chanson !»«
Saperlotte,
je ne sais rien !» Et j'ai le rhume, répliqua l'interpellé, un solide gaillard de 6 pieds qui avait la voix sonore et pleine de modulation. Allons donc, vas-tu te faire prier comme la fillette de ce ministre protestant que nous descendions en goélette l'été dernier? Avance, mon vieux, prends une cerise et lève la haussière. La cerise eut pour effet de rappeler à Lisotte qu'il savait la chanson du 25 avril. Il allait sur un air tendre et tout plein d'une mélancolie que je voudrais pouvoir rendre ici. C'était une complainte taillée à large cou, dans cette poésie un peu rugueuse qui va si bien aux gens de mer. À quelle date remontait-elle? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, elle appartenait à une période antérieure à la conquête. La voici dans sa naïve simplicité, et je la donne avec d'autant plus de plaisir que je ne la crois pas connue. « Vas-y, Lisotte, lève les voiles, on t'accompagne !»«
Par un bonjour en un lundi, nous sommes partis pour notre pays. Avec au cœur la joie profonde, pensant de tout revoir nos blondes. » Mais quand nous fûmes bien éloignés, mais quand nous fûmes bien éloignés, trois gros navires qui nous tirèrent, sans pouvoir aucun mal nous faire. Mon capitaine s'est écrié, y en a-t-il quelqu'un de blessé? Ah oui, vraiment, mon capitaine, il y a que mon contremaître. Mon contremaître, mon grand ami, avez-vous regret de mourir? Le seul regret que j'ai en ce monde, c'est le joli cœur de ma blonde. Ta blonde, on va l'envoyer cri. Ta blonde, on va l'envoyer cri. Par trois soldats de l'Amérique qui sont ici sur ce navire. Mais tant loin qu'il l'a vu venir, mais tant loin qu'il l'a vu venir. Des cheveux blonds à la ceinture, galant pour guérir ta blessure. Nenni, nenni. Jenny, chère Nanon, n'engage rien de tes jupons. N'engage rien de dans ce monde, car ma blessure est trop profonde.
J'étais en train de songer à ce jeune et élégant contremaître frappé par un boulet sur le gaillard d'arrière de son vaisseau au moment où il regardait peut-être ce pavillon blanc, couleur de France, qui avait mis l'assurance au cœur de sa belle, lorsque je fus tiré de ma rêverie par l'ami Jérôme qui faisait prendre une larme à ses convives.
« Ça gratte, mais c'est du bon. »
disait d'un ton de haute philosophie Lisotte, en remettant flegmatiquement son verre sur la table. « Oui, ça aide à mettre le feu dessus !» répartit Tanguay, qui en ce moment allumait sa pipe à la chandelle. « À votre tour maintenant, capitaine Les Tourneaux !»«
Je veux bien !» dit simplement le capitaine, et il commença, sur un ton triste, l'habitant qui ramène ses charrues le soir s'endort auprès d'enfants joufflus. Tandis qu'hélas, nous, pauvres matelots, pour seuls amis, nous n'avons que les flots.
Il y avait de la poésie là-dedans, et c'était avec délice que j'attendais la suite de la complainte. Lorsque, tout à coup, le capitaine, passant sur son front sa manche de chemise, nous dit d'un ton chagrin,
« Tiens, c'est curieux, je ne m'en rappelle plus. »
« Dame, il y a longtemps que je ne l'ai pas chanté. La dernière fois, c'était à l'Anticoste. Je veillais chez Gamache. »« Comment ? Vous avez connu Gamache ? » dis-je avec curiosité.
« Oui, monsieur, je l'ai vu une fois lorsque je suis parti de Québec pour aller faire un naufrage sur la pointe est de son île, »
ajouta-t-il avec une conviction toute fataliste.
C'était un fier brin d'homme, allez, et puisque cela vous intéresse, je m'en vais remplacer cette satanée chanson qui s'est enrapée dans ma mémoire par une autre, qu'il chantait souvent. Je la tiens de lui. Elle n'est pas drôle, mais elle servira à vous prouver ma bonne volonté. Et elle vous montrera qu'on en voit de rudes dans notre métier. Allons, excusez la compagnie, je sers le vin. »
Et il chanta d'une belle voix de basse, en enjolivant chaque finale de ses inimitables fioritures, si chères à tout chantre campagnard.
Voilà bientôt le temps qu'arrive, navigateur, ne faut pas retirer. Ma mère au reste sur la rive, quand sur la mer, ne faut courir. Choisissons le temps le plus beau. Pour naviguer dessus ses eaux, sa mère dit mon cher enfant, ta partance n'est bien sensible. Reviens pour le sûr dans un an. Vous qui vivez sur cette terre, je vais en dire quelques mots. Vous vous plaignez de la misère, qu'est-ce donc auprès des matelots? Le jour fini, vous vous couchez, nous il faut le recommencer. Sa mère dit, mon cher enfant, ta partance n'est bien sensible. Reviens pour le sûr dans un an. S'il fait beau long, vite à son aise, hélas, ça n'est pas pour longtemps. Quand vous jasez sur vos chaises, nos vaisseaux sont sur les brisants, sans avoir heure de repos. Voilà la vie des matelots, sa mère dit, mon cher enfant, ta partance est bien sensible. Reviens pour le sûr dans un an. L'été se passe et les amis ne fument pas tous à la Toussaint. Là un grand nombre sont péris sans qu'on puisse leur tendre la main. Nous nous disons à chaque instant, il peut nous en venir autant. Sa mère dit, mon cher enfant, ta partance m'est bien sensible. peur de sûr dans un an.
Pas drôle, sa chanson. Sans s'en douter, l'excellent capitaine Les Tourneaux venait d'ajouter à notre chansonnier populaire l'une de ses plus navrantes mélopées. Que dites-vous de ce triste refrain de la mère qui, à chacune des poignantes paroles de son fils, répond des larmes plein les yeux « Reviens, pour le sûr dans un an !» Que voulez-vous ? Le pêcheur comme le matelot ne peut pas être toujours joyeux. Chaque matin, le flot l'emporte sans lui dire comment il reviendra le déposer sur la grève lorsque le soir sera venu. Aussi, chacun avait-il répété à l'unisson le touchant refrain. Et le cri de l'angoisse maternelle achevait d'aller se perdre dans les gémissements de la mère qui pleurait sur les galets. Lorsque la porte s'ouvrit pour laisser passer deux nouveaux venus. À la veillée, partie 3, Jean Barthe et Bidou. Jean Barthe et Bidou étaient deux types, comme il s'en trouve encore assez rarement dans nos paroisses canadiennes. Chasseurs par tempérament, buveurs par goût, vieux par habitude, c'était à qui se ferait la plus belle gasconnade, et franchement, ils étaient de force à rompre une lance avec cet excellent cocardasse junior et le frère Amable Passepoil. « Nous avons vu de la lumière et nous sommes entrés », balbutièrent-ils tous les deux ensemble. « Mais vous êtes les bienvenus !» répartit Jérôme, tout radieux. « Prenez une chaise, un coup et du tabac. »
« Merci, hey, merci Jérôme, c'est pas le cœur qui te manque, toi ?»
hasarda le sentimental Bidou.
« Oui, » reprit Jean Barthe, « il ressemble sous ce rapport à mon pauvre Jean de Manicouagan. Te rappelles-tu, Bidou ? Comme il savait nous offrir avec grâce et à propos de ce magnifique djinn qu'il avait sauvé lors du naufrage de la magicienne sur les terribles bancs de sable de là-bas. »
« Si je m'en rappelle, Jean-Barthe, hey, il faudrait être un grand vers Dieu et envers sa créature, ton fils. Si je n'avais pas rangé le jour où j'ai fait sa connaissance parmi les plus beaux, les plus courts de ma vie, à 1000 grappins, chaque soir où tête l'angélus dans les paroisses, c'est moi qui remplaçais la cloche absente. Je te disais...
« Allons, Jean-Barthe, il est temps d'aller prendre de l'appétit chez ton descendant. »«
C'est vrai, cela. Et nous partions, bras dessous, pour passer la veillée chez ce cher Jean. »« Ah, que de bonnes histoires on se contait devant ces trois grosses futailles de pure Hollande qu'il avait arrachées à un péril imminent, comme dit le docteur Duvert. Et puis, le gardien du fort, était-ce un fin garçon, ça ?» Si le Saint-Laurent avait été du rhum, dans 10 ans d'ici, il n'y aurait plus eu besoin de lumière. Les vaisseaux s'en seraient allés faire naufrage ailleurs, car tout aurait été bu.
Ah, pour ça, je suis de ton avis. Mais en fait, de gardien, je lui préférais encore le grand Como de la Trinité. Il est vrai qu'à Jean, il n'était pas commode. Como avait alors des colères terribles, mais quand nous nous enfermions dans sa chambre à coucher et qu'il tirait le long de la muraille une petite table ronde recouverte de verres et de bouteilles, le beau temps revenait alors. Et si ce n'avait été ce satané cercueil qu'il avait fait dresser tout droit debout le long de la muraille, j'aurais pu porter la boisson presque autant que maître Como.
Pas si bête de m'approcher de Como pour me faire tuer et enterrer sur une île déserte, hein? Bien, j'ai toujours eu d'autres choses à faire, Dieu merci. Mais le père et la mère Bédard du fort de la pointe des monts, ça c'est du bon butin. Tu dois te rappeler cette grosse maman qui était si bonne pour tout le monde, et puis le père Bédard qui, lui, donnait qu'en rechignant. Mais qui avait aussi bon cœur que son baleineau de femme.
Oui, 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 oui. Je le vois encore monter sur le pont de la goélette, grand, maigre, tordu, difforme, allongé entre menton et nez sa perpétuelle grimace, et tout frileux se dorloter en plein cœur de juillet, enveloppé dans ce que le commandant appelait un dolman fourré à la hussard, qui laissait voir ses longues jambes torses enroulées dans une interminable culotte nankin. Ah, jour de Dieu! Si je le vois, mais je le crois bien. C'était le frère d'un juge, s'il vous plaît. Quel dommage qu'il soit mort. La graine de ces gens-là ne pousse plus tous les jours.
C'est d'autant plus difficile qu'il n'a jamais eu d'enfant. Tiens, toi, Jean-Barthe, tu m'agaces avec tes histoires. Il est vrai de dire que la dernière que tu m'as contée était bonne, mais j'en trouve une qui va te faire rendre des points. Alors, allume! Et écoutez-moi ça, vous autres. Il y a 2 ans, j'étais couché avec ma femme Javotte, que Dieu ait pitié de son âme. Il faisait une vraie nuit de naufrage, la mer battait furieuse sur les galets. Un ordet terrible faisait des siennes et l'on voyait noir, comme lorsque une âme éblouie par la présence de son juge sent que tout est fini et commence à dégringoler petit à petit vers le fond de l'enfer. Je dormais, pourtant bien profondément, sur mes 2 oreilles, quand, tout à coup, je suis éveillé par des cris d'outarde. Un voilier passait au-dessus de la maison. Je le sentais venir à travers les nuages noirs. Et bien qu'il fît froid dehors, je ne pus résister à l'envie d'aller leur lâcher un coup de fusil. Je sors tel quel, en petit costume de paradis terrestre, et après avoir semé mon plomb au hasard, je rentre tout grelottant, me fourrer sous mes draps et dormir un petit somme. Ça allait superbement. Je crois que j'étais même à la veille de faire un beau rêve lorsque, tout à coup, j'entends tic, toc, pif, paf sur le toit de ma maison. Je cours dehors avec un fanal cette fois-ci et à ma grande surprise, je trouve 4 outardes mortes.
Tu peux juger si le voilier était haut, Jean-Barthe.
Elles avaient mis 3 quarts d'heure à tomber par terre.
Dévoration, quel beau coup!
S'écria Jean-Barthe, en décochant une tendre œillade à son verre demi-plein qu'il faisait miroiter auprès de la chandelle.
Mais pas comme le mien. Hier, je remontais le bord de la rivière Blanche lorsqu'au coude qu'elle fait près du boom, j'aperçois 5 superbes canards qui barbotaient de conserve. J'avais bien avec moi tout ce qu'il fallait, mais comment tirer?
En ligne, les 5 coins-coins seraient passés, mais hélas, ils nageaient en demi-cercle. Tout à coup, une idée lumineuse me traverse la tête. Mon fusil, avec le canon aussi long que celui qui est là, suspendu à cette poutre. Il avait vu les temps des Français, ce sont les meilleurs, paraît-il, et comme j'avais une confiance aveugle en lui, je l'arc-boutai sur mon genou et fis décrire une courbe à son canon. 5 minutes après, j'avais les 5 canards emplumés, bec à bec, et passés en sautoir sur mon dos.
« C'est un fichu fusil tout de même !»
reprit Bidou en rallumant une nouvelle pipe.
« Et j'aurais été curieux de le comparer à celui que je chargeais avec des petites merises. »«
Des petites merises !»
s'écria Jean-Barthe, dissimulant mal sa stupéfaction au fond de son verre.
« Oui, oui, des petites merises !»
fit Bidou en l'imitant.
Il y a 1 an, j'étais allé jusqu'à la savane du Grand Brûlé. Les lièvres foisonnaient autour de moi, mais hélas, j'avais oublié d'emporter du plomb. L'idée me vint, tout en grugeant des merises, d'en glisser quelques-unes dans le canon de mon fusil. Un lièvre passe, boum! Je le vois qui file à triple vitesse au milieu de ma fumée. 1 an après, il y a de cela quelques jours, j'avais affaire au 2e rang. Il me fallait passer par le même endroit, car ça me donnait un raccourci. Lorsque devant moi, je vois un petit arbuste
se mouvoir. Il y a du gibier là-dessous, que je me dis. V'lan ! Je lâche mon cou et ne voilà-t-il pas que je trouve, quoi ? Mon lièvre de l'année dernière, avec une jeune pousse de merisier entre les deux oreilles. C'était un lièvre propriétaire, à ce qu'il paraît, et mes petites merises allaient parfaitement à sa constitution. Je n'ai pas d'aventure de chasse qui vaille la peine d'être racontée, à l'exception d'une, toutefois, glissa sournoisement Jérôme, qui profita d'un moment d'hésitation marqué chez Jean Barthe, placé inopinément devant le lièvre de Bidou. « J'étais allé draver dans le haut de la rivière Matane et, par précaution, j'avais bouclé sur mon dos mon vieux fusil. À l'un des détours de la rivière, je me trouve tout à coup en face de deux superbes sarcelles qui se lissaient coquettement les plumes à une demi-portée du talus. J'épaule et laisse tomber le chien. » Rien ne vint. Mon vieil ami s'était décidé à me rater compagnie. Je le prends, l'examine, et je m'aperçois qu'en route, j'avais semé la capsule. Je ne fais ni un ni deux. Je frotte une allumette et l'applique sur le bassinet. Paf ! Le coup part, mais en me donnant une maîtresse tape qui me flanque à l'eau. C'était ce coquin de fusil qui s'était mis en tête de repousser. Et je revins sur la berge, tant bien que mal, avec mes deux sarcelles. À peine avais-je mis pied à terre que je sens un fourmillement extraordinaire dans ce que le bourgeois s'obstine à appeler le poste ergo. J'y porte la main, sans façon, et que retirais-je? Mes bons amis, trois magnifiques truites que j'avais saignées avec mon fond de culotte. Je n'avais pas jugé à propos de faire un brin de toilette pour aller au bois et j'avais passé par hasard un pantalon percé et ventilé à jour, comme un filet.
Cette pêche est vraiment miraculeuse et je n'ai pas de peine à y croire,
ajouta imperturbablement Jean Barthe.
Car entre autres choses extraordinaires, voici ce qui m'est arrivé personnellement à moi, Jean Barthe, le pêcheur. Tu sais, Bidou, comme à la marée haute, le gibier aime à fréquenter l'anse des morts, je passais par là, en charrette, il y a de cela assez longtemps, lorsqu'à quelques arpents de la grève, je vis une bande d'outardes prendre joyeusement ses ébats. Je n'étais pas comme Jérôme Tanguay, moi, car j'avais laissé mon fusil à la maison, mais si tu sais que les expédients ne me manquent pas. À ta santé, Bidou, ainsi qu'à la compagnie. Je me déshabille, me glisse doucement sous la lame et me maintiens entre deux eaux. J'arrive silencieusement à mes outardes. J'avais eu soin d'emporter mes cordeaux, car j'avais foi dans la tranquillité ferme et inébranlable de Barnabé, qui était cheval à ne pas broncher pendant mon absence. Doucement, tout doucement, je glisse en sournois, un nœud coulant sous la patte de chacune d'elles, et jugeant le moment convenable pour respirer, je sors victorieusement ma tête hors de l'eau au milieu de mes 40 outardes tout en ayant soin de tenir fortement le bout de mes cordeaux. Mais mille morues, mon pauvre Bidou, c'était se croire sous. Je me sens soulevé tranquillement et me voilà en train de fendre les airs avec une rapidité vertigineuse derrière mes outardes. Car elles étaient bien malheureusement à moi, ces outardes. J'avais beau serrer les rênes, rien n'y faisait. Et nous rasions toujours la surface verte et clapoteuse du fleuve. Lorsqu'enfin, après une course apoplectique, faite comme si j'avais été entraîné par un sorcier de vent, je réussis à m'accrocher les pieds dans le faîte d'un sapin. Je ne pris pas grand temps à enrouler le cordeau autour de l'arbre et à me laisser glisser aux pieds. Là, une autre surprise m'attendait. À peine m'étais-je relevé de ma chute que j'aperçus haut, bien haut, mon sapin qui filait comme un nuage dans la direction du Groenland. Pour ma part, j'avais traversé le fleuve sur un espace de 45 lieues. J'étais sur la côte du Labrador. Et j'ai manqué là une belle occasion d'aller à la recherche de Sir John Franklin.
Termina Jean Barthe, qui devenait érudit, lorsqu'il avait bu à son goût et réussi à enfoncer l'ami Bidou. À la veillée, partie 4, la poésie des pauvres gens. Ces terribles gasconnades, cousines germaines des aventures merveilleuses du baron de Munchausen, et que je rapporte textuellement, telles qu'on les conta ce soir-là, auraient duré toute la nuit, car Bidou, ne se tenant pas pour battu, nous menaçait d'un crescendo de verve. Il avait même débuté en disant à Jean Barthe d'un ton narquois « Moi, j'ai tué une baleine avec de la cendrée. » Mais Urbain Blais, silencieux jusqu'alors, jugea à propos de l'interrompre.
« Parole d'honneur, vous êtes tous ensemble encore plus blagueurs que le notaire Pierron. Hey, depuis 8 ans, il se fait élire en nous promettant 6 chemins de colonisation, 3 ponts, des octrois de terre gratuits, 1 chemin de fer, 2 quais, le télégraphe, 1 ligne de vapeur hebdomadaire et la poste tous les jours. » Rien qu'à l'entendre nous dire ces choses-là à la porte de l'église, l'eau vient à la bouche. Pétri de reconnaissance, nous sommes tous heureux de l'élire par acclamation et à l'élection suivante, ça recommence. Car le gouvernement, dit-il, n'a pas eu le temps de s'occuper de notre comté qui se trouve malheureusement un des derniers sur la liste alphabétique. Mais cela arrivera indubitablement pendant ce nouveau Parlement, car lorsque la Chambre a été prorogée, il a pris des informations officielles et le sous-chef des travaux publics lui a répondu que les ministres étaient arrivés à la lettre K.
La lettre K, mais ça doit être le comté de Kamouraska, reprit le capitaine Letourneau. Il m'y est arrivé une mystérieuse aventure. Je regrette de venir vous la conter après les gigantesques prouesses de Jean Barthe et de Bidou. Chacun ici leur a donné sa part de crédulité et personne ne me croira.
« Comptez! Comptez toujours, capitaine !» cria toute la maisonnée, peu fâchée de mettre en déroute maître Urbain Blais, un cabaleur émérite à qui chaque élection faisait ses petites rentes. « On sait que vous êtes franc comme le bois de votre mât de misaine. »
« Merci, mes enfants, merci. Je vous dirai donc qu'il y a 7 ans, étant à Sainte-Anne de la Pocatière, j'ai eu l'insigne honneur de souper avec le juif errant. C'était un grand vieillard dont le visage était tellement recouvert par sa longue barbe blanche que cheveux, favoris, moustaches, barbiches se trouvaient dans un pêle-mêle indébrouillable. » Et n'offrait qu'un court espace pour laisser percer les éclairs fauves qui se dégageaient de ses prunelles noires. L'estomac appuyé sur la table, la tête courbée dans son assiette, il se maintenait dans une position qui ne me permettait pas de juger de la fraîcheur du costume que portait le contemporain de Dieu. Mais l'énorme toison blanche de mon vis-à-vis et le gigantesque gourdin appuyé auprès de l'horloge était plus que suffisant pour arrêter mes soupçons. Sans prendre le temps d'achever mon souper, j'avertis 5 matelots de mon équipage et nous courûmes nous placer sur le pont Saint-Denis de manière à intercepter l'éternel marcheur. À peine étions-nous installés en embuscade que nous aperçûmes dans la nuit sombre scintiller les fils d'argent de la barbe du juif. Il passa. Tous, nous lui adressâmes un respectueux bonsoir et lui fîmes des offres d'hospitalité, mais lui, sans répondre à nos civilités, continua son impitoyable marche. Et une demi-heure après, il traversait le village de Kamouraska, qui se trouve à une bonne et longue distance de l'endroit où nous étions. Le lendemain, je retrouvai sur les planches du pont Saint-Denis quelques gouttes de sang caillées. Elles avaient suinté des pieds endoloris de celui qui, rencontrant Jésus sur la route du calvaire, se mit à rire de ses chutes, puis à ridiculiser son pas alourdi par les péchés de l'homme, et, en expiation, fut condamné, lui et sa race, à faire sans cesse le tour du monde, jusqu'au jour où ils se heurteront, l'un et l'autre, sur la croix du Christ revenu pour juger les hommes. Cette légende
très populaire dans nos campagnes, eut pour effet de calmer Bidou, qui se contenta de vider son verre d'un seul trait, en signe d'armistice, avec Jean Barthe. D'ailleurs, il n'y avait guère moyen de contredire le capitaine, c'était un rude matois, au poing velu et à l'écorce rude, qui ne souffrait pas l'interruption. Si Jérôme Tanguay est né pour faire un monsieur, les Tourneaux avaient eu pour l'eau, en venant au monde, de se trouver à point pour voir les choses les plus extraordinaires de la terre. Une de ses plus fortes croyances de marin était celle qu'il avait vouée à la sirène. Malheur à celui qui l'aurait contredit sur ce chapitre-là. L'une d'elles ne l'avait-elle pas prévenue de l'approche d'une épouvantable tempête alors qu'elle était ancrée aux sept îles, l'année qui vit périr 11 goélettes dans ces parages redoutés?
À son avis, un sien ami manqua il y a quelques années l'occasion de faire une jolie fortune.
Il avait appareillé sa berge pour aller pêcher la morue sur les fonds du cap Chaste. Déjà, son embarcation s'emplissait à vue d'œil de beaux poissons lorsque, en voulant retirer son hameçon pour l'embouetter, il sentit qu'il y avait prise au bout. Il se mit à ramener sa ligne, brassée par brassée, dans cette attitude penchée, tête hors bord, que savent prendre tous les vrais pêcheurs de morue lorsque, horreur, il aperçut, à une profondeur de 8 pieds, une tête de femme qui montait vers lui. C'était une sirène que le malheureux avait accrochée par le coin de la lèvre supérieure.
« Elle était toute jeune, »
disaient les Tourneaux.
« À peine 22 mois et ne parlait pas encore. Car les sirènes parlent comme de vraies créatures, »
ajouta-t-il.
« Son teint était frais, comme de la belle chair de flétan. Sa figure, comme celle d'une jeune fille, un voile de peau fine, partait du front ombré par une abondante chevelure et retombait à volonté jusqu'à la ceinture, où sa forme humaine se confondait avec celle d'un poisson ordinaire. Comme elle se plaignait fort tristement, le pêcheur, tout effrayé, la reconfia fort doucement à la vague qui l'avait recelée et jura de ne plus remettre la main sur une ligne. Il a tenu parole,
ajouta les Tourneaux,
malgré qu'il eût manqué de faire sa fortune ce jour-là. Tout de même,
termina-t-il avec un accent d'inexpugnable conviction.
À sa place, j'en aurais fait autant.
C'était aussi l'avis de l'auditoire, car pour certains pêcheurs, il y a des poissons auxquels on ne touche pas. Exemple, l'espèce de morue que le commerce désigne sous le nom de haddock et que le vulgaire appelle le poisson de Saint-Pierre. La légende veut que ce soit la première pièce tirée hors des filets par le grand apôtre, au jour de la pêche miraculeuse. Depuis, le dos grisâtre du poisson porte en noir l'empreinte de 3 des doigts du chef de l'église. Tous ne se sont pas rangés dans cette pieuse catégorie pourtant, car en ce moment, Madame Tanguay, debout devant moi, une assiette de faïence à la main, me disait « On est loin des vieilles paroisses ici, et nous n'avons pas toujours ce qu'il nous faut dans une place nouvelle. Il est difficile pour nous de vous offrir des biscuits, Monsieur Henri. » Les effets, la fleur de blaine surtout, sont si chères chez les marchands. Mais prenez toujours et excusez du peu. »
C'étaient des beignes cuits dans l'huile de persil. Tout le monde y mordait à belles dents. Je fis de même, et ma foi, ça n'était pas mauvais. Pendant que nous nous rafraîchissions, Jérôme, ne pouvant rester inactif, se prit à nous chanter une jolie ballade que je n'ai vue publiée nulle part, quoique Gérard de Nerval en ait recueilli une, dans l'île de France, qui lui ressemble beaucoup. Celle de Jérôme Tanguay est plus poétique, à mon avis. Elle est un petit cachet de féodalité qui donne la chair de poule, rien qu'à l'entendre chanter. Heureusement qu'elle se termine bien. «
dans Paris vive le roi, que la fille d'un bourgeois qui voudrait bien se marier, mais son père l'a empêché. Dans les prisons de Saint-Vallier, il l'a envoyé mener. Il l'a fait mettre dans une tour où l'on ne voit ni ciel ni jour. La belle a bien été 7 ans sans voir aucun de ses parents. Au bout de la 7e année, son père fut la visiter. Bonjour ma fille, comment ça va? Mon très cher père, ça va bien bas. J'ai un côté manger les verres et les prépourgues dans les fers. Cher père, prêtez-moi 5 pouces du sol, livre tournoi, pour mettre maître chevalier, qu'il vienne m'ôter le fer aux pieds. Oh oui, ma fille, je t'en donnerai plus de 500, plus d'un millier, si tu veux laisser tes amours. Oh oui, les laisser pour toujours. Cher père, allez-vous-en avec votre or et votre argent. J'estimerais mieux perdre le jour que d'abandonner mon amour. Mais son amant, passant par là, un bout de lettre lui envoya. Te souviens-tu, ma belle amante, de cet amour qui nous tourmente? La morte l'a délaissée à Saint-Denis, fais-toi porter. Ton père te suivra en pleurant et ton amant ira chantant. En passant au coin du marché, 3 cavaliers à rencontrer. L'un avait en bas pas le froid, 2 étaient écuyers du roi. Son épée d'argent et les cousines, le suaire blanc. Puis il y jette un long soupir. La belle répond par doux sourire. L'amant prit son épée d'argent et les cousines, le suaire blanc. Puis il y jette un long soupir. La fille répond par doux sourire.
La morale est moderne, et je la lâche telle que Jérôme me l'a donnée. On ne connaît pas les trahisons entre les filles et les garçons, c'est au curé de les marier pour qu'on n'en entende plus parler. Que d'amantes délaissées, enlevées, aimées, puis délaissées encore, sont venues comme cela réfugier leurs plaisirs et leurs peines de cœur dans la chanson populaire, cette poésie des pauvres gens. La mémoire de Jérôme fourmillait de ses plaintes, de ses paroles de liesse, de doléance, et probablement ce soir-là, il en aurait laissé tomber d'autres de ses lèvres si le petit Descoteaux, penché vers la fenêtre depuis quelques instants, ne lui eût crié d'une voix chevrotante « Prends garde, Jérôme! Les marionnettes sont sur la maison !» Ce curieux avertissement rendit Tanguay muet comme un poisson. C'est une croyance commune à beaucoup de pêcheurs et d'habitants qui vivent sur le littoral du Bas-Saint-Laurent qu'un air d'instrument ou une chanson dite le soir lorsque le temps est calme fait danser les marionnettes à volonté. Malheur à l'imprudent Orphée qui s'amuse à jouer avec les sylphes mystérieux qui tressent les blonds fils de l'aurore boréale. À mesure qu'il les regarde nouer leur valse tournoyante, il se sent fasciné. Peu à peu, sa pupille se dilate, le chant devient de plus en plus faible. À peine l'entend-on. Et le lendemain matin, le paysan matinal retrouve l'impresario immobile sur la grève. Son âme s'en est allée se mêler à la danse vertigineuse des marionnettes. Un soir, ajouta Descoteaux en m'expliquant cette poétique croyance, nous étions allés faire une promenade au large, lorsqu'un de mes oncles s'avisa de les faire danser. Petit à petit, leur cercle de feu vint se rétrécir au-dessus de notre tête. Les marionnettes se mirent à tournoyer autour de la berge et à nous passer le long des oreilles avec une rapidité étourdissante. Mon pauvre oncle ne faisait plus un mouvement et les regardait avec de grands yeux fixes. Heureusement, nous touchions au galet. Nous le transportâmes sans connaissance à la maison et ce n'est qu'au contact d'un rameau béni qu'il reprit ses sens.
Ton pauvre oncle, paraît-il, n'avait pas de chance dans ses promenades au large, reprit le capitaine des tourneaux. J'étais allé, un jour, avec lui pour relever les filets que nous avions sur les tangons. Lorsqu'en fouillant les varechs et les goémons avec le bout de nos rames, nous y trouvâmes un noyer enlacé. Je voulais le faire embarquer, mais l'oncle avait peur, et force me fallut de remettre le cap sur terre. Il n'avait pas compté sur le noyer, qui, paraît-il, était du même avis que moi, et qui, ne pouvant venir se coucher sur le banc de la chaloupe, s'était mise à la suivre avec une persistance inouïe. En se penchant derrière le gouvernail, on le voyait qui nageait silencieusement dans le sillage. « Allons, dis-je à l'oncle, un peu de charité pour l'amour de Dieu, tu vois bien que ce pauvre mort désire être mis en terre sainte. Laissons-le embarquer. « Embarque-le, me dit-il. » Je le sortis, tout ruisselant, du fleuve et, en arrivant à terre, nous le déposâmes sous le hangar, en espérant l'enquête, qui se fit 6 jours après, car on attendait un parent du défunt qui venait du Haut-Canada. Dès que ce dernier mit le pied dans la chambre où le corps était exposé, le cadavre se prit à saigner du nez. Il donnait, ainsi, son témoignage muet et prouvait, au corps de jury qu'il reconnaissait son ami et son allié. C'était prudent de la part du noyé. Il avait sur lui un portefeuille bourré d'argent, qui servit à lui faire dire des messes et à le tirer ainsi hors du purgatoire. Comme le capitaine Letourneau achevait ces mots, la vieille horloge de Jérôme se mit à sonner 11 heures. Dans l'ombre, les chandelles de suif allongeaient leurs mèches fumeuses hors des goulots de bouteilles qui les retenaient, et le lumignon du plafond tremblotait dans son bec de fer où l'huile commençait à se faire rare. Chanteurs et conteurs demeuraient silencieux et fatigués. Seule la mer, toujours rajeunie, déferlait au loin son éternel ressac. Le père de Madame Tanguay, le vieux Jean-Pierre, se leva alors et secoua sa pipe. Ce fut le signal de la prière. Puis, chacun alla se coucher et c'est ainsi que les bonnes gens d'en bas s'acheminent sans regret, sans désir et sans remords vers le coin obscur du cimetière de leur paroisse. Ils ont en partage la seule poésie et le véritable bonheur d'ici-bas. L'immensité de la mer et le calme pur de la conscience. Contents de leur sort chez eux, joie, deuil et travail, tout se passe simplement et uniment sous l'œil et en la sainte garde de Dieu. Fin de la Brunante. Salut, Henri.